France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Benjamin Bernheim, je suis né à Paris en 1985 et je suis musicien.
Bonjour Benjamin Bernheim. Merci beaucoup de nous accorder ce temps ici à Paris en studio à la Maison de la Radio. Depuis quelques années maintenant, le public vous connaît, le public je dirais même plus vous attend désormais sur les plus grandes scènes en peu de temps. Votre timbre cuivré, vos aigus triomphants, votre diction remarquable, vos couleurs aussi si variées ont fait de vous le ténor à la voix d'or qu'on adore. Je trouvais ça joli d'avoir ces trois rimes en or, c'était pour
très,
vous.
Surtout très flatteur.
Grâce et rigueur sont sans doute les ingrédients de ce succès. Vous répétez en ce moment Faust de Gounod à l'Opéra Bastille.
Absolument.
Une nouvelle production mise en scène par Tobias Kratzer, dont le public parisien va découvrir le travail pour la première fois. Alors dit comme ça, ça semble tout à fait normal, banal dans la vie d'un grand chanteur à l'international, mais c'est tout sauf normal en ce moment.
Ah, c'est vraiment pas normal du tout, mais on a une énorme chance, c'est de pouvoir travailler. Et on le mesure chaque jour en venant aux répétitions à l'Opéra Bastille. Déjà parce qu'on se retrouve entre collègues, des collègues qui viennent d'un peu partout. On a Christian Van Horn qui est américain.
Qui est Mephisto.
John Relaya qui est l'autre Mephisto qui est aussi américain. Stephen Costello qui est l'autre Faust aussi. Hermann Eliao qui vient d'Albanie. Anita Artic qui vient de Roumanie. Tous ces gens viennent d'horizons différents avec des réalités très différentes. Et on se retrouve un peu comme si on était en pleine guerre, un peu, même si c'est pas aussi dramatique, heureusement, qu'une guerre, mais on a l'impression d'être un peu sous le feu des annonces qui se font pas aussi, de l'attente, des pertes financières, effectivement, pour beaucoup de gens, des pertes de travail, des pertes d'horizon. Donc c'est pas une situation normale, mais on mesure la chance tous les jours de se dire, un peu comme un peintre qui va faire ses œuvres et qui va se dire, peut-être que je les montrerai jamais. On se dit qu'en fait on va créer quelque chose, on est en train de créer cette très belle pièce de Faust, cette très jolie production de Tobias Kratzer. Et on se dit que peut-être qu'elle va rester à la cave pendant quelques temps et qu'un jour on pourra la montrer. Peut-être ce sera pas moi, peut-être ce sera l'autre cast qui pourra le montrer au public. Donc on essaie de voir les choses comme ça, mais la chance avant tout c'est de pouvoir se retrouver, d'être sur un plateau et de faire une création, et ça aujourd'hui ça n'a pas de prix.
J'imagine que quand on est en répétition et qu'on a, comme vous le disiez très bien, Benjamin Bernheim, la possibilité quand même de répéter et de chanter, ça transcende un peu et ça fait oublier un petit peu ce qu'on vit. Ce Faust là que vous êtes donc en train de répéter, Faust de Gounod, Campé le rôle titre. Ça, c'est une musique qui vous tombe comme un gant ou...
Oui, c'est vraiment un rôle qui me convient très très bien, que j'aime beaucoup chanter. J'ai eu la chance de le chanter au Théâtre des Champs-Élysées. J'ai même enregistré avec la Fondation Drouzane.
C'était un peu différent quand même.
C'était le premier Faust.
C'est le genre Urtexte.
Exactement, le Urtexte, donc la première version, la version presque sortie du ventre. Hein. C'est avant même que Gounod ait eu le temps de modifier certaines choses. Comme il l'a fait par la suite à Covent Garden avec l'air de Valentin, qui n'était à la base pas dans l'œuvre. Là, c'était vraiment cet enregistrement qu'on a fait avec la Fondation Brouzane qui était très intéressante parce que j'ai appris énormément de choses sur le rôle que je pensais connaître. Et c'est aussi un disque et un enregistrement qui a appris énormément de choses aux gens qui pensaient connaître Faust. Donc c'était une merveilleuse expérience. Et donc j'ai aussi chanté à Chicago et à Riga en Lettonie. Et donc voilà, c'est la quatrième fois que je chante le rôle de Faust. C'est une chance énorme de défendre un rôle titre du grand répertoire français à l'Opéra National de Paris, sachant que je crois que mon prédécesseur n'était autre que Roberto Alagna, la dernière fois que ça a été fait. Donc pour moi, c'est un honneur encore plus grand de se dire que voilà, je mets ma brique, ma pierre à l'édifice en me disant que je fais partie de cette histoire. C'est, je donne un peu de moi, de mon sang ou de ma sueur pour l'édifice de l'Opéra de Paris.
Avant Roberto Alagna, ce Faust, vous l'aviez dans l'oreille. Est-ce que c'est, par exemple, des opéras que, plus jeune, vous écoutiez? Est-ce que les Domingo ou des gens comme ça, c'était des...
Bon. Alors oui, bon, c'était un rôle que... déjà parce que l'air de Faust, Salut de Marche, c'était pur, est très très connu, était vraiment enregistré des dizaines de fois et donc très connu, évidemment. Après, c'est vrai que le rôle de Faust, c'est pas le rôle le plus sexy hein, pour un chanteur. C'est pas un personnage très agréable.
C'est pas un personnage très sympathique.
C'est même quelqu'un de plutôt exécrable. C'est un vieillard sénile, assez insupportable, imbu de lui-même, qui cherche à vivre. Et après, ça, c'est le côté très humain de Faust. Et c'est ça qui est beau, parce que je crois que chaque artiste, chaque personne sur scène, dans la vie même, se posera un jour la question, et si je pouvais revenir en arrière? Et si maintenant j'avais 20 ans, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je me poserais les mêmes questions? Est-ce que je ferais les mêmes choix? Et lui ai donné la chance à ce vieux Faust de revenir en arrière, ce qui fait pas ce qu'il faut faire, évidemment, parce que lui, ce qu'il veut, c'est mordre dans la vie. Il veut le plaisir de la chair, il veut le plaisir de... Il le dit hein, au début, à moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. Tout ça, c'est vraiment des désirs un peu primaires. Et donc, c'est vraiment, il va s'enfoncer dedans, il va se baigner dedans avec l'aide du diable, avec l'aide de Méphisto. Et c'est très humain parce que finalement, est-ce qu'on ferait pas tous pareil? Est-ce qu'on ferait pas tous pareil une fois à 80 ans si on pouvait revenir en arrière? Quand on a été bien, on a bien fait toute sa vie, on a fait des études, on a fait plaisir à papa et maman, on a fait plaisir à son entourage. Et dit, j'aimerais bien être un bad boy une fois, j'aimerais bien faire des conneries, j'aimerais bien faire ma crise d'adolescence que je n'ai pas faite. Et donc, ce qui fait que c'est un personnage qui n'est pas du tout lyrique, romantique, comme le serait des Grieux, comme le serait Roméo, mais vraiment... Il est presque trop humain, en fait, Faust, parce que je crois qu'il rappelle peut-être à beaucoup de gens que peut-être qu'on ferait pas de choix si différents si on était à sa place. Mais vocalement, c'est un rôle absolument magnifique. Et de nouveau, un peu comme à l'image de Desgrieux dans Manon, c'est un rôle qui me permet vraiment d'évoluer et d'aller au travers de toutes les couleurs que j'ai dans ma voix, avec la voix mixte, avec la voix de poitrine, avec des couleurs, d'en essayer le maximum. Là, en plus, sur cette production, on a la chance de travailler avec un ami et collègue Lorenzo Viotti, un jeune chef d'orchestre avec un talent incroyable. Et c'est un plaisir de développer en fait ces couleurs avec lui et de voir qu'on veut se pousser l'un l'autre. En tout cas, moi, je lui demande vraiment de me pousser à sortir de cette production de Faust meilleure que je n'étais quand j'ai commencé.
Laisse ma main s'oublier dans la tienne. Laisse-moi
Vous êtes à l'aise, vous, pour jouer les bad boys et qu'est-ce que vous trouvez en vous-même qui vous aide et qui vous guide? Vous nous avez confié qu'il y avait peut-être ce truc, en effet, peut-être qu'à 80 ans, en fait, on ferait tous pareil.
Bah oui, moi, comme j'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence, ça me pousse dans mes retranchements, parce qu'il me dit, mais vas-y, danse, comme si t'étais dans une boîte de nuit, et puis t'es pas censé être là, mais tu danses quand même, et puis, et parle comme ça, et c'est des choses, effectivement, qui ne font pas partie forcément de mon vocabulaire ou de mon vécu, mais ça me permet de découvrir des nouvelles facettes. Évidemment, à chaque fois que j'ai chanté Faust, on passe par cette idée de revenir en arrière et d'essayer de faire les choses, de n'être que dans le désir et dans le plaisir. C'est le but un peu du voyage de Faust. Et donc, bah, ça me permet de découvrir des choses et de voir le point de vue de Tobias Kratzer qui est vraiment, on va dire, en anglais, on dirait « driven ». Il a une passion pour cette production, pour ses idées, et il nous les vend, je dois dire. Moi, je me réjouis d'aller en répétition parce que on va travailler très dur. On va faire des séances où on va faire 15 secondes de musique, on va reprendre ces 15 secondes de musique et on va les reprendre jusqu'à ce qu'il y croie. Donc, il nous met nous-mêmes vraiment en position de devoir nous lui vendre ses propres idées à lui. Donc, c'est vraiment un retour, chanceux pour nous les chanteurs de se dire on retourne travailler et en plus on a la chance de vraiment faire un travail de laboratoire. On a l'impression d'être dans un laboratoire avec un chef.
Ça va bien,
une
faux,
cuisine, absolument un laboratoire ou un chef cuisinier et puis on essaye des choses et il y a beaucoup de bonne humeur. Il y a énormément de bonne humeur. Ça, je crois que c'est la chose que j'avais vue le plus en retournant travailler quand j'ai fait la Traviata à l'Opéra de Bordeaux en septembre 2020, c'était de voir les visages de mes collègues, le retour sur scène, le retour en répétition, c'était une délivrance pour beaucoup de gens. Et là, pour beaucoup de gens, beaucoup de chanteurs, c'est la première fois dont mon collègue Christian Van Horn n'a pas chanté depuis, je crois, un an sur scène, avec un orchestre ou avec des collègues, c'était un an de chômage forcé. Et donc, il y a une délivrance et un bonheur de pouvoir se dire « c'est ça que je fais ».
France Musique, les grands entretiens de Benjamin Bernheim.
Quand je vous entends parler comme ça de ce besoin de partager avec le public une émotion, je me demandais quel était votre premier souvenir à vous, public, de partage, d'émotion comme ça, d'être dans un public.
Alors moi, je vais vous dire, ça m'a toujours stressé. Quand j'étais enfant, ça m'a toujours stressé d'être dans le public parce que j'aurais détesté être sur scène et me tromper. J'avais cette angoisse, je crois que j'ai eu cette angoisse très très longtemps, d'aller sur scène et de me tromper de mise en scène, de me tromper de texte, de ne pas me souvenir de mon texte, de ne pas me souvenir de ma partition. Et puis déjà, j'étais un grand timide, donc pour moi, c'était l'idée d'être seul devant, entouré d'un chœur et de chanter pour un public, c'était impensable. Mais je pense qu'à partir du moment où je suis passé de l'autre côté, donc j'étais dans le chœur d'enfant au Grand Théâtre à Genève, où j'ai pu... Tout bêtement, c'était la première production que j'ai faite sur scène, c'était Cavalleria Rusticana et Pagliacci, 96, du temps de René Auffant. Madame René Auffant était directrice du Grand Théâtre de Genève. Et je me suis retourné plusieurs fois dans la dernière scène, on était plein d'enfants on devait voir le spectacle de Pagliacci, et je me retournais de temps en temps pour fixer des gens dans le public. Parce que c'est comme si je brisais la glace. J'avais tellement peur de ce public, j'avais tellement peur de ces gens qui me regardaient, qui nous regardaient, parce qu'en plus le public ne me regardait pas moi en particulier, mais c'est une angoisse quand on est sur scène, on se dit, s'il y a un problème, c'est moi qu'on va regarder. C'est évident, c'est l'angoisse, c'est le rêve qu'on fait, vous savez, quand on rêve qu'on arrive en classe et qu'on s'aperçoit qu'on est toujours en pyjama, c'est un peu l'angoisse qu'on a quand on est sur scène, c'est-à-dire s'il y a un problème, c'est moi qu'on va regarder. Et en fait, très petit, j'avais 11-12 ans, mais je me tournais de temps en temps pour regarder les visages au premier, deuxième rang, pour les observer. Dire mais qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils aiment regarder, qu'est-ce qu'ils aiment recevoir. Et il y a beaucoup d'écoute différentes. Il y a des gens qui ne regardent pas. C'était très intéressant. Il y a des gens qui n'osent pas. Quand un chanteur chante, ils préfèrent l'écouter. D'autres qui ne font que regarder. D'autres qui ne regardent qu'autour. Et donc, pour moi, l'échange a vraiment commencé quand moi j'étais sur scène, parce que j'ai compris qu'en fait, si j'étais capable de surmonter mes peurs, mes angoisses, j'allais pouvoir faire quelque chose, en tout cas, de viable pour moi sur scène. Mais avant, pour moi, c'était une angoisse incommensurable.
Alors, peut-être aussi, parce que je sais que vos parents sont musiciens, peut-être que ça joue, parce que je me dis toujours que les gens qu'on connaît, ouais, quand on les voit sur scène, alors je ne sais pas si vos parents étaient des musiciens que vous avez vus sur scène.
Je sais juste qu'ils étaient musiciens. Oui, je les ai vus sur scène et j'avais une peur,
angoisse. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours. Donc peut-être que ça a perverti cette première.
Tout à fait. Et pas seulement parce que je les voyais sur scène, mais aussi parce que je les voyais répéter. Donc je voyais eux et tous leurs collègues se tromper et recommencer et me dire, mon Dieu, mais j'espère que ça va pas se passer sur scène. Et puis après, on se dit, à 19 ans, on est au conservatoire, je suis au conservatoire à Lausanne, et on va sur scène, et tout d'un coup, on voit le film de ses angoisses, en disant, mon Dieu, c'est sur moi que maintenant que ça va retomber, je vais me tromper. C'est moi qui vais me tromper. Et ça, effectivement, c'est une angoisse quand on connaît quelqu'un. Je sais que ma grand-mère me suit énormément, et qu'elle a souvent beaucoup de peine à me regarder quand je suis sur scène, parce que elle a une peur qu'il y ait une fausse note, un crack dans la voix, quelque chose qui marche pas, et je comprends tout à fait. Je pense que quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on soutient, ou quelqu'un avec qui on partage sa vie, qui est en représentation, c'est un stress, parce qu'on partage le stress, on partage la responsabilité de l'échec ou de la réussite, mais c'est très stressant. Je pense pour les gens qui nous aiment, c'est très stressant. Des gens aussi, je pense à tous les gens qui ont cru en moi et qui m'ont lancé sur scène. J'imagine un directeur d'opéra, un agent, un ami qui me dit « Allez, vas-y, je pense que tu vas pouvoir faire ce rôle, je crois en toi ». Cette personne, à partir du moment où je suis sur scène et que je défends ce rôle en question, je pense que cette personne, elle doit se sentir un peu fébrile quand même. Mmh. Parce que c'est un pari, finalement. C'est un pari. Mais moi, c'est vrai qu'en étant enfant, je voyais mes parents et leurs amis chanter sur scène et c'était une grande angoisse pour moi.
Ils étaient chanteurs tous les deux?
Tous les deux, oui.
Et ils étaient jeunes chanteurs quand vous étiez petit?
Oui. Ils nous ont eu, mes frères, sœurs et moi, ils nous ont eu très très jeunes. Donc, on les a connus vraiment, enfin, on les a vus évoluer dans ce métier vraiment dans leur vingtaine, vraiment au début. Donc, c'était pour nous une période, en tout cas pour moi, j'étais l'aîné. Enfin, je suis toujours l'aîné d'ailleurs, mais étant l'aîné, je suivais, je prenais mon petit frère, ma petite sœur souvent par la main, je les amenais, donc j'étais un peu responsable. Et j'avais ce stress, très souvent ce stress, mais pas seulement pour mes parents, aussi pour tous les gens qui les entouraient, parce que on se prenait d'affection pour ces gens. On les écoutait parler, on allait dîner après avec eux, on entendait ces artistes parler de leur trajectoire, de leur vie, de leurs peurs, de leurs angoisses. Et finalement, quand c'est très difficile quand tout d'un coup on décide soit d'être artiste, de se dire et si c'est à moi que ça arrivait aussi. Donc j'ai vécu ça, vous voyez, en tant que public, en tant que fils, enfant, neveu, filleul ou ami d'eux. Mais c'est pour moi c'est plus facile d'être sur scène aujourd'hui. Je pense que j'ai réussi à surmonter mes peurs parce que en allant sur scène, je me suis retourné, j'ai regardé le public dans les yeux et il m'a fallu plusieurs années pour me dire à moi-même, comme si je le disais au public, je suis humain, je suis pas une machine et je peux me planter, mais je ferai de mon mieux d'une certaine manière. C'est un peu ce que je me dis.
On se dit comme ça que vous êtes un peu enfant de la balle et que ça doit être absolument merveilleux et un monde de magie, mais vous avez vu
Non, c'est pas
tout
un monde
de suite, c'est plus ça peut l'angoisse.
Ça peut l'être, mais ça peut être aussi un monde d'angoisse énorme. Et il faut pas oublier une chose, c'est que le métier, le milieu artistique, c'est un milieu très dur, comme vous me direz tous les milieux. Vous êtes à la radio, je pense pas que ce soit un milieu très très facile non plus. Je ne connais pas, donc je peux que m'imaginer. Mais dans le milieu artistique, on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être artiste, on est choisi par le métier. On est pris par le métier, c'est un métier de rejet. Et même quand on est choisi et qu'on réussit, il y a du rejet dans la balance parce que ça veut dire que d'autres ont été rejetés. Donc ça, c'est à partir du moment où on peut faire la paix un peu avec ça, On peut avancer, mais c'est un monde très difficile, et de voir des gens, de voir certains de mes collègues avec qui j'ai étudié, qui ont essayé de percer, qui se sont donné les moyens et le temps et beaucoup de patience, et ça marche ou ça marche pas, mais c'est pas une question de volonté, c'est aussi une question de timing, de chance, et c'est le métier qui choisit. Mmh. C'est la jungle qui nous choisit.
Vous dites, c'est drôle, on est choisi par
on
le métier.
Choisi, ouais.
Mais on peut être malheureux d'être choisi.
Très, on peut être très malheureux. Vous savez, il y a un grand tabou dans le milieu culturel en général, mais que sont les problèmes de drogue, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes de dépression. On peut être fait pour quelque chose et ne pas du tout en être heureux. Je l'ai observé plusieurs fois. Il y a beaucoup d'artistes, que ce soit des peintres, des chanteurs, des comédiens, ils sont faits pour ça. C'est leur essence même, ils sont faits pour ça, mais ça ne veut pas dire que ça les rendra heureux. Et on voit beaucoup d'artistes. Moi, j'ai grandi en voyant des artistes, beaucoup d'artistes, en suivant des artistes, et même parce que j'étais fasciné par le sport, donc je voyais beaucoup d'athlètes. Et combien d'athlètes, combien de sportifs on a vu se détruire pendant leur carrière? Ils étaient faits pour ça. Ils étaient faits pour le football, le tennis, le curling, n'importe quel sport. Est-ce que ça les rendait heureux? On ne sait pas, mais à partir du moment où on fait le choix, on se dit... J'ai été choisi par le métier, je tente ou je tente pas. Il y a une responsabilité qu'on prend ou qu'on prend pas. On peut aussi décider je peux pas le vivre pour moi ou pour ma famille ou pour mes proches. C'est un choix à faire. Après, c'est des choix qui se font pendant les années de développement. Mais je crois qu'il y a un choix. À partir du moment où on sait que ça peut marcher, on doit vivre avec, mais ça veut pas dire qu'on sera heureux. Ça veut dire qu'on trouvera son bonheur dans certaines facettes, certains domaines, certains moments, certains voyages, certaines rencontres, mais pas tout le temps. Vous savez, le moment où on présente une production sur scène, c'est un moment d'adrénaline, c'est un moment fort, mais c'est que 3% de ce qu'on vit. Tout le reste, c'est quand le rideau est baissé, on travaille, on vit seul. Vous savez, c'est un métier très solitaire, on voyage seul, on vit seul, on est dans des chambres d'hôtel ou dans des appartements qu'on loue, et c'est un métier, c'est une vie solitaire. Comme on le voit, quand on a une culture du cinéma et qu'on voit ces films qui suivent les grands chanteurs de rock, les grands chanteurs de jazz, et qui sont seuls, ils sont tout le temps seuls avec leur cigarette, avec leur verre de whisky, c'est leur compagnon, ou avec leur piano, avec leur instrument. C'est un métier de vie solitaire où on est seul avec son art, on est seul avec sa voix, on est entouré de gens, mais on est quand même tout seul.
Nous refermons ce premier épisode des Grands Entretiens avec Benjamin Bernheim par le ténor, accompagné de Karianne Matheson à Salzbourg, dans L'heure exquise de Reynaldo Hahn. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Lucas de Rode, mixage Claire Levasseur, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.